toi la gloire, Seigneur. L'honneur et le règne. Amen. Merci beaucoup, les musiciens. On a une super équipe avec qui on travaille, et c'est plus qu'un travail. C'est vraiment, on est unis dans l'esprit, et je me réjouis. J'espère que vous allez bien aussi à la maison. On veut vraiment vous saluer de la part du Seigneur. Bienvenue à ce culte de l'église évangélique Lazare, Bussigny, Lausanne. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le week-end de Pentecôte. Merci beaucoup. Et nous croyons que Dieu est encore vivant pour agir. Comme il a été rappelé la semaine dernière par le pasteur Christian, lors de l'ascension, il y a un certain nombre de choses importantes que Christ a pu dire avant de partir dans le ciel de gloire. Et notamment, il a dit que je m'en vais et je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et c'est vraiment ce qu'il a fait, en fait. Et on se rappelle de ces personnes qui étaient dans un confinement. Ils étaient confinés. C'était compliqué hein, pour eux. Et ils ont été confinés pendant 10 jours. 10 jours dans la chambre haute. Je ne sais pas s'ils ont respecté les distances. Je ne sais pas s'ils avaient du gel hydroalcoolique. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils sont restés 1 jour, 2 jours, 3 jours. Christ leur avait parlé pendant 40 jours au préalable. Et puis voilà que sur la parole de Christ, ce sont des personnes qui avaient suivi Christ, ce sont des personnes qui avaient osé croire que ce que Christ a dit bien était la vérité. Et donc ils sont dans ce lieu et voilà qu'au bout de 10 jours, il se passe quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous dit dans Actes au chapitre 2, il y a comme ce vent violent qui arrive, des flammes de feu viennent. Il y a une manifestation visible de ce que Dieu est en train de faire. Nous croyons que Dieu est vivant, nous croyons qu'il n'en a pas fini avec nous, et nous croyons qu'il sauve, qu'il guérit, qu'il libère, qu'il baptise, qu'il revient. Nous le croyons. Amen. Et dans ce temps-là, il y a d'autres personnes qui étaient à Jérusalem quand ça s'est passé. Il y avait aussi un certain nombre de juifs qui étaient des juifs pieux, nous dit la Bible. Et ils étaient venus de toutes les nations sous le ciel. Vous pouvez relire, on ne va pas lire tous les textes. Vous pouvez les relire cette semaine, acte 2. Et dans acte 2, il nous est dit qu'il y avait des juifs qui venaient à Jérusalem pour la fête. Et ils venaient de toutes les nations. Et voilà que eux... Même, je ne sais pas, ils ont été aussi déconfinés de leur pays. Je ne sais pas si les compagnies aériennes ont refonctionné normalement. Mais à un moment donné, ils ont entendu un bruit étrange. Et voilà qu'ils ont entendu ces 120 en train de louer Dieu, de célébrer Dieu. Et ici, nous sommes dans ce texte-là, dans l'épisode, dans le temps où Christ n'est plus sur la terre et il va envoyer Dieu, le Saint-Esprit, dans les personnes. C'est plus dessus, c'est plus sûr, mais c'est dans les personnes, c'est dans les chrétiens. Et là, nous avons affaire, il y a toute une symbolique, on ne va pas développer cela. Je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, on a des cours bibliques où on peut développer ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Il y a toute une symbolique, on est dans la fête de Shavuot. Shavuot, c'est semaine, c'est la fête des moissons, fête des prémices. Et puis la fête de la Torah, de la parole de Dieu. Parole de Dieu est annoncée, le Saint-Esprit vient, le Dieu, le Saint-Esprit vient, et il se passe des miracles, 3000 conversions. On se souvient de Pierre, qui était dans une faiblesse extrême. Ils étaient dans la crainte. Ils n'ont fait que obéir à ce que Dieu leur avait dit. Ils étaient ensemble, unis dans la foi. Ils ne savaient pas trop ce qui allait se passer. Mais ils étaient ensemble sur la parole de Dieu. Et c'est bien que nous puissions continuer ensemble, en tant qu'Église, à continuer à croire Dieu, continuer à nous tenir devant lui comme nous l'avons fait. Et moi, je n'aurais pas arrêté, j'aurais loué toute la journée, tellement la présence de Dieu est extraordinaire. Et ils sont là, et ils vont continuer le ministère de Christ sur la terre. Alors, je pourrais développer davantage, mais ce n'est pas mon point ce matin. Ce n'est pas ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Il y a quelque chose de particulier que le Seigneur a mis sur mon cœur, et vous allez voir, alors je vais essayer de vous amener dans ce point-là qui est tellement bénissant. Ça fait un moment que je prie, que je lis ces textes. Et franchement, je me régale. Je sens que c'est comme un renouvellement. Je trouve que la parole de Dieu est tellement, tellement extraordinaire. Quand je vois la Pentecôte, ça me rappelle dans l'Ancienne Alliance ce que les rabbins juifs ont appelé la Shekinah. Shekinah, c'est la présence, la manifestation particulière de la présence de Dieu. Et on se rend compte que dans l'Ancienne Alliance, il y a cette manifestation particulière qui se passe. Est-ce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui sont habitués à la parole de Dieu, parce qu'il y a des événements qui vous rappellent les moments où Dieu, même si Dieu est partout, il est omniscient, omniprésent, omnipotent, mais il y a des moments particuliers où il y a une présence de Dieu particulière. Vous vous souvenez des passages ? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Eh bien, notamment, par exemple, lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, eh bien, il y a la nuée qui vient. La nuée, ce n'est pas quelque chose de magique, d'extraordinaire, ce n'est pas de la science-fiction. C'est simplement une manifestation visible pour nous de la présence particulière de Dieu. La colonne de nuée va conduire le peuple de Dieu, la colonne de feu va les éclairer la nuit. On a également une particulière présence de Dieu lorsque, dans le temple, il y a la dédicace. Vous vous souvenez de cela ? La dédicace. Pourtant, c'est des gens, les sacrificateurs, sont des gens qui servent Dieu, qui connaissent Dieu. Et à un moment donné, quand la présence de Dieu vient, la gloire de Dieu descend, ils sont obligés de partir tellement la présence de Dieu est forte, intense. Et nous avons également cela dans le tabernacle, dans l'Ancienne Alliance. Vous relirez les textes dans le livre d'Exode, chapitre 40, puis au chapitre 13, également au chapitre 20. Lorsque le tabernacle est terminé, eh bien Moïse, dans le tabernacle, vit cette Shekinah, cette présence de Dieu, comme ce que les 120 ont vécu également lors de la Pentecôte. La présence de Dieu descend d'une manière particulière. Et Moïse, à un tel point, pourtant il est proche de Dieu, la Bible nous dit, vous relirez, c'est dans Exode 40, Moïse ne pouvait même pas entrer dans la tente de la rencontre, tellement la présence de Dieu était là. Et ici, on se rend compte que le tabernacle, ça signifie demeurer, c'est la présence de Dieu au milieu de son peuple. Au milieu de son peuple, il désire être au centre, donc c'est dans l'Ancien Testament. Il désire demeurer et aller avec. La grande différence avec les idoles, c'est que les idoles des peuples étaient figées, mais le tabernacle qui représente la présence de Dieu accompagne le peuple, ou plutôt le peuple accompagne la présence de Dieu dans son voyage, dans sa conquête. Et ça, c'est extrêmement important. Puis le troisième point pour le tabernacle, Dieu est un Dieu pédagogue. Il a voulu également enseigner qu'il est également un Dieu saint. Et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas une étude sur le tabernacle, mais que l'on trouve la partie hors du camp, dans le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et je pourrais vraiment développer vraiment cela, c'est extrêmement intéressant. La Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, c'est la naissance véritablement de l'Église néo-testamentaire, de la Nouvelle Alliance. Pourquoi ? Parce que le sang de Christ a été versé non seulement à la croix, mais la Bible nous dit que notre souverain sacrificateur est monté dans le ciel et a offert son sang pour la purification de nos péchés une fois pour toutes. Et quand le Saint-Esprit descend sur l'Église, la première Église, ils étaient déjà sauvés, donc ils avaient déjà l'Esprit de Dieu puisqu'ils étaient nés de nouveau, mais la puissance du Saint-Esprit descend. Et là, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a une connexion particulière avec le trône de Dieu, la présence de Dieu. Christ est à la droite de Dieu le Père. Il est dans la gloire. Il est là au-dessus de toutes les autorités, de toute domination. Il règne pour l'éternité. Il nous a dit qu'il est assis. Ce n'est pas parce qu'il se repose. Ce n'est pas parce qu'il veut faire un break. La Bible nous dit qu'être assis, c'est une position de règne, d'autorité. Il domine au-dessus de tous les noms, de toute autorité. Ça, c'est extraordinaire. Et ce qui se passe à la Pentecôte, où il est question du 50e jour après la Pâque, voilà que Dieu, le Saint-Esprit, descend sur l'Église. La présence de Dieu, l'autorité de Dieu, la hardiesse de Dieu. Ils vont pouvoir faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant. Pierre se lève, ils vont commencer à parler en langue des gloires, des choses extraordinaires de qui est Dieu. Et voilà que tous ceux qui sont à Jérusalem vont entendre cela et ils vont être impactés. Non pas par la grandeur, l'intelligence des 120, parce qu'ils étaient bien habillés, ils étaient éloquents, parce qu'ils avaient un attrait particulier. Non, ce qui a fait la différence, c'est la présence de Dieu dans leur vie. La présence de Dieu, l'autorité de Dieu, la vérité de Dieu. Et quand je lis cela, alors il y a beaucoup de textes, c'est vraiment extraordinaire. Moi, ça me réjouit et ça m'encourage de savoir qu'aujourd'hui, Christ nous a ouvert cet accès dans le tabernacle divin. Il est dit dans Hébreux au chapitre 10 et les versets 19 et 20, voilà qu'il a inauguré pour nous une route nouvelle au travers du voile. Et ce voile, c'est sa chair, c'est sa vie qu'il a donnée à la croix. C'est au moment où la chair de Christ est déchirée, où le sang coule et qu'il est à la croix, et qu'il dira « tout est accompli ». Au même moment, le voile dans le temple se déchire. Dieu déchire ce voile. Et voilà qu'avant, le chemin n'était pas ouvert. Hébreux chapitre 9 et au verset 8 nous dit que tant que l'ancien tabernacle subsistait, le nouveau ne pouvait pas, la route n'était pas encore ouverte. Et ce que l'on vivait, c'était comme une des ombres à venir. C'était comme une projection sur la réalité à venir. Et voilà qu'à la Pentecôte, le voile est déchiré. Voilà que l'Église se lève, elle annonce la bonne nouvelle, elle parle en langue, elle prophétise. Ils sont unis. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vous ai apporté une petite illustration. Vous avez également les images qui passent à l'écran. Voilà que nous avons dans le livre des Hébreux une évocation très très particulière de ce qu'est le véritable tabernacle. L'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse à des chrétiens qui vivent la persécution. Et dans ces temps de persécution, la tentation, c'est d'abandonner la foi. Il dira, là encore, on n'a pas le temps de tout développer, mais la teneur, la substance de ce livre, c'est de dire, il dira, mais vous devriez être des maîtres, mais vous avez besoin encore de lait. Et quand il écrit cela, ce n'est pas un reproche du haut de son piédestal, c'est vraiment quelqu'un qui aime les chrétiens à qui il écrit. Il dira des choses assez dures, mais en même temps, il dira, mais bien-aimé, je sais que ça va aller, je sais que vous n'êtes pas dans cet état d'esprit. Il dira dans Hébreux chapitre 6, il dira, mais je sais que vous avez d'autres dispositions que ceux et celles qui veulent revenir en arrière. Il y a en même temps la vérité et en même temps cet amour profond pour l'Église, et notamment des chrétiens messianiques, des juifs messianiques. Et lorsqu'il écrit, il va donner une clé, écoutez bien, c'est important, il va donner une clé pour permettre à ces chrétiens qui vivent des choses difficiles, il va donner une clé pour pouvoir surmonter ces obstacles. La semaine dernière, il y avait cette pensée qui disait que certains ne ressentaient pas l'amour de Dieu. Et des fois, c'est encore plus compliqué derrière un écran. S'il vous plaît, ne partez pas tout de suite. N'allez pas boire un café, restez avec nous. Parce que je crois que Dieu a quelque chose de bon pour chacun d'entre nous. Mais il y avait comme quelque chose qui était là, et cette pensée qui disait que certains ne ressentent pas l'amour de Dieu. Il y a comme des obstacles. Et Dieu disait la semaine dernière, ces obstacles, je veux les enlever. Et j'ai capté ça, et je crois que c'est ce que Dieu veut continuer de faire. Ce matin, il y a eu cette pensée également de ce verset, 1 Corinthiens 6, où il est dit que nous sommes un seul esprit avec Dieu, avec Christ. Autrement dit, aujourd'hui, au travers de la parole, nous pouvons avoir cette espérance que le chemin est ouvert et que quelles que soient nos années de conversion, quel que soit notre arrière-plan, quelle que soit notre expérience, quel que soit ce que l'on ressent, qu'on le ressente ou non, qu'on se croit capable ou non, peu importe. La question c'est, est-ce que nous sommes chrétiens, nés de nouveau? Est-ce que nous avons Christ comme notre sauveur? Est-ce que nous avons cette espérance de la vie éternelle? Est-ce que nous croyons que le sang de Christ est encore efficace? Est-ce que nous avons véritablement donné notre vie à Christ? Si c'est le cas, alors j'ai une bonne nouvelle pour nous. Quel que soit notre arrière-plan, le chemin est ouvert. Et le cœur du Père nous dit, mais j'ai tout accompli pour toi. Tout accompli. Il connaît nos limites, il connaît notre réalité, il connaît qui nous sommes. Mais je voudrais nous encourager, et ce matin, que nous puissions ensemble, entrer dans le lieu très saint, la présence même de Dieu, le Père. Le tabernacle, eh bien, c'est le nouveau tabernacle. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Christ est la tête, nous sommes le corps. Et quand il est dit que le tabernacle ancien était une ombre des choses à venir, aujourd'hui, le tabernacle, c'est quoi? La demeure de Dieu, c'est quoi? Eh bien, c'est Dieu dans le ciel, notre souverain sacrificateur qui a tout accompli, et nous sommes la demeure de Dieu par le Saint-Esprit. Et quand je lis ce verset dans Hébreux 6, verset 19, et ça c'est pour des chrétiens qui sont dans des batailles, qui sont dans toutes sortes de difficultés, mais en même temps qui ont cet appel extraordinaire, extraordinaire à avoir cette relation avec Dieu et eux-mêmes être des témoins de qui est Dieu. C'est le cœur, finalement, du livre des Hébreux. Il est dit ici, je ne développe pas tout le chapitre, ça serait très intéressant, mais je voudrais juste m'arrêter un instant sur le verset 19, où il est dit, « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. » C'est la raison pour laquelle, vous avez remarqué, on vous invite à faire une promenade en bateau sur le lac. C'est pour ça que nous avons, vous avez remarqué avec Patrick, on a la tenue de marin, on est dans le même bateau, je ne dis pas la même galère, hein, mais le même bateau. Et je nous propose une petite promenade sur le lac, ou alors carrément on peut aller, si vous voulez, en Méditerranée, ou mieux encore, dans l'Atlantique, là ça secoue un peu plus. Et ici, il y a une comparaison, il est dit que cette espérance... Nous la possédons comme l'ancre de l'âme, sûre et solide. Et cette ancre, elle va au-delà du voile. Pourquoi j'ai parlé du tabernacle en rapport aussi avec la Pentecôte? C'est que quelque part, c'est une réalité pour nous aujourd'hui. Quand il est dit, il est question de l'ancre, une ancre. Imaginez-vous, vous allez en bateau. Une fois, ça nous est arrivé, vous savez, ces petits bateaux que vous gonflez, vous êtes à 2, 3, 4, et puis je me souviens, on était en Méditerranée, c'était du côté de Marseille, avec ma famille, et puis à un moment donné, j'étais sur ce bateau, puis d'un seul coup, le vent a soufflé, et le vent commençait à nous amener au large. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il faut vite que je plonge et que je nage. Et que je revienne, sinon ça va être compliqué. Là, on est en train de partir en Afrique. Hein, et je me dis, mais effectivement, ces petits bateaux, il n'y a pas d'ancre. Imaginez les plus gros bateaux sans ancre. Pourtant, c'est quelque chose qui, comparativement, est assez petit. Mais s'il n'y a pas d'ancre, que se passe-t-il? Le bateau est en danger. C'est à cause des vents, à cause des vagues, à cause des marées. Voilà que quand le temps est calme, ça va. Mais l'ancre, c'est sympa quand il y a la tempête. Et surtout quand on veut s'arrêter, par exemple, pour faire recharger, pour se reposer, pour prendre un temps, c'est stratégique. Sinon, on risque de se fracasser contre les rochers. Et donc, la comparaison entre l'espérance et l'ancre de notre âme, Je me suis dit, c'est intéressant. Et j'ai envie de nous poser la question, dans quel état est ton âme? Est-ce qu'elle est tourmentée? Est-ce qu'elle est en paix? Est-ce qu'elle est agitée? Ou est-ce qu'elle est apaisée? Est-ce qu'elle est inquiète? Ou est-ce qu'elle est dans la profonde paix que Dieu est en contrôle? Dans quel état est notre âme? Dans quel état est notre ancre? Et ici, ce qui est intéressant, c'est que nous voyons un certain nombre de caractéristiques de cette ancre de l'âme qui est l'espérance. Si je vous dis l'espérance, ce serait intéressant. Pour vous, c'est quoi l'espérance? C'est quoi, à votre avis? Moi, souvent, quand j'entends le mot espérance, souvent, je pense à utopie, déception. Je pense à combien de fois on a été déçu de personnes, travail, toutes sortes de déceptions. Donc, quand j'entends le mot espérance, je me dis oui, ok, mais ça fait référence ou ça peut faire référence à des douleurs. Et c'est la raison pour laquelle c'est important de comprendre la pensée biblique de l'espérance. La pensée, trouver une définition de psychologue en psychologie, il dit c'est la disposition de l'âme qui porte l'homme à considérer dans l'avenir un bien important qu'il désire et qu'il croit pouvoir se réaliser. On a tous des rêves, on a tous des désirs, c'est normal. C'est normal. Pour avoir suivi un certain nombre de personnes, et notamment à la fin de leur vie, je me suis rendu compte, et ça c'est pour moi très très instructif, je me suis rendu compte que beaucoup d'hommes et de femmes à la fin de leur vie sont dans une déception extrême, parce qu'ils avaient une espérance, ils souhaitaient se marier avec un tel, ils désiraient partir dans tel pays, ils désiraient faire tel métier, et à la fin, eh bien, cette espérance s'est changée en confusion, en déception, en colère. Mais l'espérance dont nous parlons ici, ce n'est pas une disposition de l'âme, mais c'est une personne. Et c'est ça la différence. Dans la pensée biblique, l'espérance désigne l'objet de l'espérance. Et la Bible nous dit que cette espérance, elle est comment? Elle est sûre, elle est solide. Et quand on développe la pensée de l'espérance, là encore, je ne voudrais pas aller trop loin, mais la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que, finalement, nous la possédons déjà. Si vous vous dites, mais je n'ai plus d'espérance, je suis chrétien, je n'ai plus d'espérance. On revient à la parole de Dieu, qui nous dit, même si pour les chrétiens ici, ils étaient dans la persécution, hein, l'auteur dira, nous la possédons. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un sentiment, c'est une personne. Et cette personne, c'est Christ, qui est sûr et solide, qui est notre précurseur, notre souverain sacrificateur, qui a été au-delà du voile. Et Paul dira dans Éphésiens 5 ou 4, verset 3, il dira, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance. Il n'y en a pas 50. Pourquoi il y en a une seule? Parce qu'il y a une seule personne, un seul chemin qui nous mène vers le Père. Et il dira, mais c'est cette espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Appelés, nous sommes appelés à posséder cette espérance. Elle est sûre et solide. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle repose sur Dieu lui-même. 1 Timothée 6, verset 17, dira, mais recommande aux riches, il parle à Timothée, du monde présent de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Plus loin, dans Romains 15, il dira, mais notre espérance est produite par l'Écriture, par la parole de Dieu. Et plus loin, Pierre nous dira que finalement, c'est la résurrection de Christ, le fait que nous pouvons dire, vivre, que Christ est vivant et qu'il est ressuscité. Tout un programme, c'est extraordinaire. On pourrait continuer, je suis obligé d'aller vite, parce que je voudrais vous partager ce que signifie cette ancre. L'ancre, la possibilité pour le bateau d'être stabilisé, que notre vie soit stabilisée, c'est important que l'ancre soit de bonne qualité. Mais je voudrais vous soumettre une autre pensée, c'est de dire que non seulement c'est important d'avoir une encre de bonne qualité, mais c'est aussi important d'avoir un bon terrain sur lequel l'encre va se poser, de manière à pouvoir résister à tous les vents contraires, à toutes les marées. Et là, on pourrait prendre un moment pour dire, mais quels sont les vents contraires dans nos vies? Quelles sont les marées? Qu'est-ce qui essaye de nous amener? Vous savez, les courants sous-marins, c'est très insidieux. C'est très insidieux. Parce que vous êtes, vous savez, à la mer, des fois, quand on nage, des fois, il y a des courants sous-marins, puis d'un seul coup, on est en train de dériver, on ne voit même pas qu'on est en train de dériver. Et si notre ancre, notre espérance n'est pas profondément ancrée en Dieu, eh bien, on va être à même de dériver. Et à un moment donné, on se dit, tiens, on a bougé, on ne s'en est même pas rendu compte. Et c'est la raison pour laquelle c'est important. Alors, quand il est parlé de l'ancre qui est au-delà du voile, cela fait référence évidemment non pas au tabernacle de l'Ancien Testament, mais au tabernacle, le réel tabernacle, c'est-à-dire l'Église de Christ, là où demeure la présence de Dieu, la Seigneurie de Dieu, la présence profonde de Dieu. Et là où nous avons accès dans le lieu très saint, là où est le trône de Dieu. Et c'est important. Et vous avez l'image, peut-être on peut revoir l'image que j'ai faite, les possibilités de jeter l'ancre. À quel endroit on peut jeter l'ancre? Le premier terrain, c'est pas une étude sur le tabernacle, encore une fois, hein, donc les proportions ne sont pas respectées, mais on peut jeter l'ancre, notre espérance, hors du camp. Vous avez, pour ceux qui sont présents, vous avez le schéma. Hors du camp, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, on peut placer notre espérance dans tout ce qui est indépendant de Dieu, indépendant de son autorité. Tout ce qui ne se soumet pas, finalement, à la parole de Dieu ou à ce qu'il dit lui-même. Et ça, c'est une possibilité. C'est ce que la Bible dit, par exemple, lorsque dans Luc 12, il parlera de cet homme, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Donc, ce n'est pas du tout un problème d'être riche, mais le problème pour cet homme, ça a été de dire, ma sécurité, mon espérance, eh bien, je vais la placer dans ses richesses. Je vais me construire des greniers, et après, je vais être heureux, je vais être dans sécurité. Et Dieu lui dira quelque chose de particulier qui résonne encore aujourd'hui. Il lui dira, mais écoute, il dira, mais insensé, c'est lui-même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ici, Dieu est en train de dire à tous ceux et celles qui ont l'illusion de pouvoir vivre une vie sans se soumettre à Dieu, sans croire Dieu, sans donner sa vie à Dieu, eh bien malheureusement, c'est très 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 instable comme sécurité. L'histoire nous le montre. Et en même temps, le diable, celui qui est l'ennemi de notre âme, eh bien va en profiter tout simplement. Si notre ancre n'est pas ancrée en Christ, nous sommes à même, même si on a toutes les richesses, toute l'intelligence, toute la philosophie, tous les diplômes, tout ce que l'on veut, on se rend compte qu'à un moment donné, eh bien, on va être la tête à l'envers et on ne va plus savoir quoi. On peut en mettre cette ancre, on peut se dire d'accord, on est d'accord, pas de souci, hors du camp, ok. Mais si on pouvait la mettre dans le camp, c'est pas une bonne idée ça? Dans le camp. Mettre notre ancre, notre espérance dans le camp, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie, la Bible me montre, vous avez l'image ici, de toutes les tribus dans l'Ancienne Alliance, et la Bible me dit que le camp de l'Éternel est un camp saint, il est mis à part. Et pourquoi il est saint? Non pas parce que les personnes sont parfaites, mais c'est parce que Dieu réside. La sainteté du camp réside dans l'appel et dans la présence de Dieu. Vous remarquez que dans Nombre, chapitre 12, quand Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron, à un moment donné, ils ont la bonne idée de critiquer Moïse, ou la mauvaise plutôt. Et ils vont dire, mais est-ce que c'est seulement par Moïse que Dieu parle, etc., etc. Nombre 12, vous relirez l'histoire. Et la nuée vient, présence de Dieu, sur le tabernacle. Et Dieu dira, venez, venez me voir là tous les trois, j'ai quelque chose à vous dire. Et Dieu dira, mais il va prendre la défense de Moïse. Et il dira, c'est pas parce qu'il est meilleur, je l'ai juste appelé pour cela. Et voilà que Dieu se met en colère. Il se met en colère. C'est possible cela ? Est-ce qu'on croit à un Dieu qui est capable de se mettre en colère ? Quel est le parent qui ne se met pas en colère contre son enfant ? Est-ce que c'est mal ? La colère, si elle est destructrice, si elle fait mal, ça c'est pas bien, c'est pas bon. Mais si la colère démontre un intérêt, un amour, un désir pour que l'enfant ne se fasse pas mal ou ne prenne pas des mauvaises décisions, à ce moment-là, c'est un signe d'amour, de dire, pour moi, tu es important, et je vais te dire vraiment ce que je pense, je vais te le dire pour ton bien, et c'est le cœur du Père. Et voilà que Myriam, à cause de cela, elle a la lèpre. Et la Bible me dit qu'à cause de cela, elle va être enfermée 7 jours en dehors du camp. Autrement dit, le camp, c'est un temps où c'est un camp qui est sain, et Myriam va être enfermée 7 jours en dehors du camp. Et en dehors du camp, ça bloque tout le peuple. Et c'est la raison pour laquelle il est dit dans la parole de Dieu que Christ, lorsqu'il est à la croix, il va être crucifié en dehors du camp, en dehors. Pourquoi ? Parce qu'il porte notre péché. Et c'est la raison pour laquelle c'est un indice qui nous montre que finalement, l'Église de Christ, elle n'est pas parfaite, mais elle appartient à Dieu et elle est sainte. Et au passage, je voudrais juste peut-être faire ou rappeler quelque chose, c'est que de la même manière que Zacharie dira, mais ceux qui vous font du mal, c'est comme s'ils touchaient à la prunelle de mes yeux. Et il est dit également dans le Nouveau Testament, il est dit, mais en fait, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 3, il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Il habite en toi, il habite en nous. Et le verset 17, souvent on lit cela, mais on oublie le verset 17, et Dieu dira, mais si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Autrement dit, c'est intéressant de réaliser que l'Église de Christ est sainte. Mais si nous mettons uniquement notre espérance, notre attente dans les relations fraternelles, vous savez, avec la tribu d'Issachar, c'était assez sympa d'aller les voir parce qu'ils avaient le discernement, le don de discerner les temps. Donc c'était bien d'aller les voir. La tribu de Dan, c'était sympa, ils habitaient à côté de la mer. C'était pratique en cas de pandémie. Il y avait vraiment des avantages dans la communion. Puis on se rend compte qu'il y a aussi des désavantages. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des telles dissensions. Il y en a certains qui avaient leur territoire. Ils ont dit, bon, les autres, débrouillez-vous. Et puis, il a failli y avoir une guerre interne. On se rend compte que si notre espérance, si notre ancre est seulement dans le camp, à ce moment-là, on va être déçu. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de frères et sœurs qui, aujourd'hui, parlent de l'Église avec comme une espèce d'allergie. Beaucoup de chrétiens qui sont en dehors des églises. Je voudrais juste nous rappeler que l'Église de Christ, c'est l'ensemble de ceux qui sont nés de nouveau. Donc que nous restions à la maison ou que nous nous rassemblions dans un lieu, de toute façon, nous sommes l'Église. Et quelque part, l'ancre de notre âme n'est pas seulement dans cette confiance, cette espérance, dans les relations, même si c'est extrêmement important. Alors on peut aller plus loin, on met cette ancre dans quoi ? Dans le parvis, enfin. Le parvis, c'est la cour qui est à l'extérieur, juste devant la tente, mais à l'intérieur. Vous voyez là un petit peu cette haie ici. Puis là, c'était les Lévitiques qui pouvaient entrer. Ils offraient des sacrifices pour le peuple, sacrifices voilà, de culpabilité. Il y avait toutes sortes de sacrifices. Et puis, il y avait cette cuve d'airain où il y avait de l'eau. Et puis là, je me suis dit, mais encore une fois, ce n'est pas une étude sur le tabernacle. Mais je me suis dit, c'est Lévite, quelle était la tentation ? Quel était l'espoir dans lequel il pouvait vivre ? Comment il pouvait vivre cela ? Il pouvait se dire, mais finalement, nous, on a accès à un endroit plus saint que les autres. Et finalement, on a une position qui est privilégiée. On offre des sacrifices tous les jours. Et quelque part, la tentation pourrait être de mettre notre espérance dans ce que l'on fait. Dans ce que l'on fait, même pour Dieu. dans notre service, dans notre louange, dans notre prédication, dans notre diaconat, dans tout ce que l'on fait, missionnaire, etc. À un moment donné, on peut mettre cette espérance. Mais Dieu, tu vois tout ce que je fais pour toi. Et pourtant, je suis dans cette situation. Que se passe-t-il ? Il se passe simplement que finalement, même si je sers Dieu de tout mon cœur, le mieux possible, eh bien, c'est complètement, je dirais, normal de le faire. Parce que Dieu a tellement fait pour nous. Il nous a tellement aimés. Et si l'on sert Dieu pour se dire, mais finalement, c'est notre sécurité, on a tellement fait pour Dieu qu'obligatoirement, Dieu va nous bénir. On n'a pas cette ancre qui est au-delà du voile, mais on a cette ancre qui est finalement sur ce que l'on pourrait faire. Je ne sers pas Dieu parce que ça me fait plaisir d'être sur une estrade. Je ne sers pas Dieu pour tout ce que ça peut m'apporter. Profondément et intrinsèquement, je sers Dieu parce qu'il m'a tellement aimé. Il m'a tellement aimé. Et il continue de le faire. Je le sers parce que quand je sens son cœur, je vois qui il est. Il est tellement fidèle. C'est tellement passionnant, difficile mais passionnant d'être dans cette relation avec mon Dieu. Tellement passionnant de le servir. Il est dit, ne vous amassez pas des richesses uniquement sur cette terre, mais soyez riches pour Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça vaut le coup de servir Dieu, de l'adorer, de témoigner. Ça vaut le coup de le faire. Parce que vous savez, on va combien d'années on va vivre sur la terre face à l'éternité. Alors, je lance le défi de prendre cette ancre et finalement de passer le parvis et d'entrer dans le lieu très saint. Dans le lieu saint d'abord. Le lieu saint, là, il y a plusieurs couvertures. On entend moins le bruit extérieur. On arrive dans un endroit, finalement, qui est d'ailleurs réservé uniquement à la descendance d'Aaron. Et il y a la menorah, la lumière, seule lumière du lieu. On n'entend pas grand-chose, mais on sent le parfum qui brûle. Et puis, il y a cette table des pains de proposition ou de consécration. Et je suis dans cet endroit-là et je me dis, mais waouh, là, il y a encore moins de monde qui ont accès à ce lieu, je peux bénéficier de cette lumière, de cette menorah. Je peux bénéficier même des pains qui sont là. Il y a 2 piles, 2 x 6, et je peux même les manger. Extraordinaire. Et puis je peux sentir cette odeur. La lumière, alors il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ces éléments, mais je voudrais juste en souligner quelques-unes. La première, c'est la lumière, c'est Christ qui est la lumière qui nous éclaire. La tentation, ça serait de dire, mais j'ai compris la parole, j'ai compris, j'ai fait une école biblique, ou même 2 ou 3 même, mais j'ai compris ce que les autres n'ont pas compris. Et puis, le parfum, ça nous parle de l'intercession, de la prière, de l'adoration. Voilà, moi j'ai ce contact avec Dieu que les autres n'ont pas. Puis ces pains, finalement, je bénéficie, en servant Dieu, je peux bénéficier d'une notoriété, je peux bénéficier d'honneur, je peux bénéficier... Je ne voudrais pas être dans le jugement, mais quand je vois tout ce qui se fait dans le monde chrétien, pas seulement en Suisse, mais ailleurs, des fois je frémis. Des fois, franchement, je frémis. Pas rentrer dans les détails, je me souviens, j'avais entendu un témoignage d'un homme aux États-Unis. J'étais en Angleterre, il y a beaucoup de chaînes différentes. Et puis, cet homme était en train de dire que finalement, Dieu lui avait donné... finalement sa place, il était en train de se servir, il prenait des avions, il faisait plein de choses. C'était tellement évident, tellement, tellement évident, c'était insupportable de voir que cet homme finalement vraiment se prenait pour Dieu. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, waouh, waouh. On est loin des hommes de Dieu qui disent, mais que tu grandisses et que je diminue. Non pas à moi, éternel, donne la gloire, mais à toi, Seigneur. Cet homme, quelques mois après, j'écoutais encore sur ces chaînes chrétiennes, quelques mois après, j'ai appris, ils étaient en train de le dire, cet homme allait faire une grande rencontre dans un endroit, il était en hélicoptère, il y a eu un orage, il s'est pris un pylône électrique et il est mort. Je me garderai de dire quoi que ce soit sur cela, mais je me dis, en même temps, ayons cette crainte de Dieu, c'est important. On peut être dans le lieu saint, on peut avoir compris beaucoup de choses, Mais est-ce que notre espérance repose sur cela? Est-ce qu'elle repose sur ça? La Bible me dit que cette espérance, nous la possédons, sûre et solide, et elle va au-delà du voile. Et je voudrais juste finir avec cette pensée de « au-delà du voile ». Qu'est-ce que ça veut dire? Notre espérance va au-delà du voile. Là où Jésus est entré en précurseur, il a donné son sang en tant que souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Là, on pourrait développer également. Mais qu'est-ce que cela me dit? Qu'est-ce que cela me dit? Bien, ça me dit que notre espérance, vous l'avez ici, c'est là où vous voyez l'arche de l'Alliance, les chérubins. C'était un endroit qui était sombre. À l'intérieur de l'arche, il y avait les tables de l'Alliance, la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Et dessus, il y avait le couvercle, ce qu'on a appelé le propitiatoire, là où le sang était amené d'un animal une fois par an. Lorsque Dieu regardait, il regardait le propitiatoire et il regardait, normalement il pouvait voir les tables de la loi qui condamnaient le péché, que personne n'avait pu accomplir. Mais il y avait ce sang qui couvrait. Et du coup, Dieu était apaisé. Notre espérance, aujourd'hui, elle est en Christ, qui est à la droite de Dieu le Père. Et son sang non seulement couvre, mais il enlève notre péché. Est-ce que nous avons péché? C'est le lieu de la grâce. C'est le lieu où je peux entrer, pas parce que je le mérite, mais parce que le chemin est ouvert, par la foi, par le sang de Christ, par le Saint-Esprit. Je rentre dans ce lieu et je peux dire merci Éternel, je ne le mérite pas, mais ton sang m'a purifié. Ton sang me lave. Et si nous avons péché, Dieu est fidèle pour nous pardonner. Pourquoi? Parce que nous avons cet accès, non pas dans le parvis, non pas dans le camp, non pas en dehors du camp, mais dans le lieu très saint. Et je peux m'approcher de Dieu et je peux lui dire, Seigneur, pardonne-moi, transforme-moi, change-moi. C'est le lieu de la grâce. C'est le lieu où je suis affranchi et je peux encore y entrer. Et ce lieu-là me montre également la manne, me montre la provision de Dieu. Je suis dans sa présence. Vous allez me dire, mais je suis déjà dans sa présence. Qu'est-ce que c'est toute cette histoire? Mais la réalité, c'est que si nous sommes encore dans la dépression, si nous sommes encore dans la culpabilité, si nous sommes encore dans l'incertitude par rapport à notre service, alors nous avons besoin d'entrer dans ce lieu très saint. Nous avons besoin d'y aller par la foi. La Pentecôte, c'est ça. C'est Dieu le Saint-Esprit qui vient et qui nous remplit et qui nous connecte avec le cœur du Père. C'est la raison pour laquelle Pierre a pu se lever et a pu prêcher cette prédication, non pas de lui-même, mais parce qu'il était connecté avec le lieu très saint. C'est l'histoire de Saul de Tarse qui devient Paul. C'est l'histoire d'Ésaïe lorsqu'il est dans cette présence. Pourtant, il connaît Dieu, il connaît la loi. Et dans sa présence, il dira « Mais mes lèvres sont impures. Je suis au milieu d'un peuple impur. » Il y a comme une prise de conscience qui dépasse l'intelligence, qui dépasse nos diplômes, qui dépasse notre expérience. L'encre qui est jetée jusque dans le lieu très saint nous amène à réaliser véritablement qui est Dieu et qui nous sommes. Et dans cette présence, eh bien, il va nous dire quoi faire. Il va nous dire qui nous sommes. Il dira au prophète Jérémie, « Mais avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. Dieu connaît nos vies. Et il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Il pourrait faire sans nous. Mais il a besoin que son Église puisse entrer dans le lieu très saint. La route est ouverte. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi ferme, une conscience purifiée et lavée d'une eau pure. Ça nous parle de quoi? Et ce matin, on va prendre ce chant, je nous invite. On va prendre, j'ai demandé aux musiciens de prendre un chant qui nous dit, mais amène-moi dans le lieu très saint. Pas le lieu très saint terrestre. Comme il nous a été rappelé par quelqu'un qui en... Vous pouvez venir. Nous sommes un seul esprit avec Christ. La Bible nous dit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La Bible nous dit de rechercher les choses d'en haut. Vous savez, ça fait une grande différence. même dans nos réunions, c'est ma prière, pour moi personnellement, que je puisse plus être dans cette présence de Dieu qui me transforme, mais aussi dans nos réunions, dans nos réunions. Ne nous contentons pas simplement d'être dans le camp et puis d'apprécier la communion fraternelle. Tout ça, c'est bon, tout ce qu'on a évoqué, c'est bon. Mais ce qui va faire une différence, c'est lorsque nous serons là où est le Père, le trône de Dieu, la seigneurie de Dieu, l'autorité de Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour cette réalité, c'est tellement riche, mais en même temps derrière, il y a une réalité tellement importante. Et alors qu'on va prendre ce chant qui nous invite à entrer dans ta présence, Seigneur, je prie que tout ce qui nous empêche d'entrer dans le lieu très saint soit mis à la lumière maintenant. Seigneur, je prie que s'il y a une culpabilité, s'il y a une accusation, s'il y a un sentiment d'échec, s'il y a ce sentiment de dire « je ne suis pas à la hauteur », je ne suis pas capable, je suis trop âgé, trop jeune, trop ceci ou trop cela. Que maintenant, par ton Saint-Esprit, tu puisses rendre vivante cette parole. De savoir que cette encre, nous la possédons déjà, parce que c'est toi. Et merci parce qu'elle est sûre et solide. Et ce matin, nous ne voulons pas simplement mettre notre espérance en dehors du camp, même dans le camp, ou dans le parvis, ou même dans le lieu saint. Mais nous désirons, Seigneur, venir dans le lieu très saint, lavé par le sang de l'agneau, rempli de ton Saint-Esprit, avec un cœur humble, un cœur rempli de foi, pour que tu viennes nous rencontrer là où nous sommes, et que tu viennes transformer nos vies, et que nous puissions devenir à notre tour des sacrificateurs pour Dieu le Père. C'est ce que tu as fait de nous, pour que nous puissions être, Seigneur, des hommes et des femmes qui se tenons devant Dieu, qui se tiennent devant Dieu en faveur du pays, en faveur de la société, en faveur de tous ceux et celles qui ne te connaissent pas, en tous ceux et celles qui sont dans la difficulté. On prie pour les politiques, pour ceux qui sont dans le médical, dans l'enseignement, dans n'importe quelle sphère de la société. Tu as fait de nous des sacrificateurs. Et tu as besoin qu'on se lève dans cette force, dans cette foi, comme à la Pentecôte. Seigneur, et pour cela, tu nous appelles à entrer dans ce lieu très saint.